Je propose de remettre ce moment au Seigneur. Seigneur mon Dieu, c'est un privilège que nous avons de pouvoir ouvrir ta parole encore une fois ce matin. Seigneur, enseigne-nous toi-même. Nous avons besoin, Seigneur, de tes lumières pour comprendre ce que tu as à nous dire. Nous nous rendons compte, Seigneur, dans le chemin du salut que tu fais quasiment tout le travail, Seigneur. C'est toi qui nous transforme, qui nous permet, Seigneur, de produire du bon fruit. Seigneur, que nous soyons pas des auditeurs oublieux, mais que nous puissions, Seigneur, mettre en pratique ce que nous avons compris ce matin. Dans le nom de ton Fils, qui nous a donné, Seigneur, un accès libre auprès de toi. Et c'est formidable, Seigneur, de pouvoir nous approcher de toi avec confiance, sans crainte. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles. Alors, on va lire un passage dans l'une des premières lettres de l'apôtre Paul, qui soit remontée jusqu'à nous. Il l'a écrite probablement en l'an 50 après Jésus-Christ. Il l'a écrit à des chrétiens fraîchement convertis d'une grande ville de Macédoine, qui est située au bord de la mer et sur une route aussi très passante qui relie Rome à Istanbul. Devinette, quelle est cette lettre? Si vous ne devinez pas, j'arrête. On va voir est-ce que vous avez des idées précises? Une des premières lettres de l'apôtre Paul, écrite à une grande église. Voyons voir les bons élèves. Il y en a-t-il? J'entends? C'est en yin, oui, mais... Ce sont les Thessaloniciens, la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 1, les versets 2 à 10. Cette semaine, nous avons eu une réunion à l'église lundi, c'était pour discuter des projets d'évangélisation de l'église. On a parlé de différents moyens pour faire rayonner l'amour de Dieu autour de nous. On a parlé de la fête de Noël, qui est une formidable possibilité pour inviter des gens. On a parlé des calendriers, on a parlé des vitrines, on a parlé d'expositions sur les marchés. Enfin, il y a quantité de façons. Et justement, dans cette optique d'évangélisation, de rayonner autour de nous la parole de Dieu et l'évangile, je trouvais que c'était un passage intéressant. Donc, première épître aux Thessaloniciens, à partir du chapitre 2, du verset 1. « Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. » Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus-Christ, qui nous délivre de la colère à venir. Vous voyez cette église, c'est formidable. Ils sont devenus un modèle pour les croyants de Macédoine, donc de toute la province, et de l'Achaïe, qui était une province du sud. Et même en tout lieu, hein, on dit que leur foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu. Et à l'époque, il n'y avait pas le satellite, il n'y avait pas les télés partout. Là, on pouvait donc utiliser ces outils pour diffuser l'évangile. Les impressions massives de Bible n'existaient pas non plus, il n'y avait pas les calendriers. Et pourtant, le rayonnement de ces chrétiens-là, formidable. Les qualités de ces chrétiens de Thessalonique... On va bien sûr s'y attacher. On voit verset 3 que leur amour est actif, leur foi est vivante, leur espérance est ferme, leur joie est profonde malgré les épreuves. Et l'œuvre donc que le Seigneur a accomplie chez eux a eu un tel retentissement que ça s'est étendu dans la Macédoine, dans l'Achaïe et même au-delà. Et c'est intéressant parce que lorsque Paul écrit aux Corinthiens, il dira des Macédoniens, donc, dont faisaient partie les Thessaloniciens, « Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, donc, dont faisait partie Thessalonique. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. » Quel témoignage hein, pour ces chrétiens de Thessalonique. Ils ont donné au-delà de leurs moyens. C'était un des premiers signes palpables hein, de leur conversion extraordinaire. Alors on peut se demander qu'est-ce qui a produit cela chez eux? Qu'est-ce qui a fait que ces chrétiens de Thessalonique et ont eu un rayonnement aussi important, aussi impressionnant. Et comme nous le dit la parole de Dieu au verset 9, simplement, ces chrétiens s'étaient convertis à Dieu. Ils avaient vécu une profonde conversion. Aujourd'hui, le mot conversion, on l'emploie souvent, parfois de façon confuse, on ne sait pas forcément de quoi on parle exactement. On comprend tous, on sait tous la nécessité impérieuse qu'il y a de se convertir, mais sait-on vraiment ce que comporte la conversion? Et je crois qu'il y a dans ce passage des éléments très intéressants qui nous montrent ce qu'est la véritable conversion. Et c'est ce qui explique le rayonnement de ces chrétiens de Thessalonique. Et s'ils sont un modèle pour les gens de l'époque, je crois qu'ils sont aussi un modèle pour nous, chrétiens du XXIe siècle. Alors se convertir, vous le savez, hein, dans le sens physique, se convertir c'est se tourner ou se retourner. D'ailleurs le mot convertir est employé dans les évangiles. Paul, là je prends l'exemple des Actes, donc je prends des évangiles. Pierre s'étant retourné, donc là c'est le même mot, hein, mais il s'était retourné physiquement. Dans les Actes, au chapitre 16, on voit que Paul, fatigué, se retourna. Et là encore, c'est le mot conversion qui est employé. Dans les locomotives, si vous vous intéressez aux trains, vous savez que le convertisseur, c'est ce qui permet de changer de direction, de faire marcher la locomotive, de la faire passer de marche avant en marche arrière. Donc là, se convertir au sens physique, c'est se tourner ou se retourner, changer de direction. Et premier point important, pour y voir clair, la Bible distingue plusieurs conversions. Il y a tout d'abord, c'est ce dont nous a parlé Michel ce matin, la conversion vers le Dieu créateur, se tourner vers le Dieu créateur. C'est ce que Paul prêchera aux païens de Lystre, on voit ça dans Actes 14, il dira « Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » C'est logique, il s'adresse à des gens qui ne connaissent pas beaucoup de choses sur l'évangile. Donc on commence par le début, par le béaba. « Tournez-vous vers le Dieu créateur. » C'est la porte de la foi et on sait que tout homme, l'Écriture nous l'enseigne, a les capacités naturelles de reconnaître qu'il y a dans la nature un Dieu créateur. Dieu parle par la nature. Il y a un langage dans la nature. Et nous trouvons en Romains 1, 20, ces versets qui dit « Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Conséquence, ceux qui ne reconnaissent pas le Dieu créateur sont inexcusables. » Vous connaissez aussi ce verset dans le psaume 53, « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. » Alors vous me direz, oui, mais avec la science, ce qu'elle avance aujourd'hui, c'est difficile peut-être de reconnaître que la nature a été créée par une intelligence supérieure. Quand on creuse un peu les choses, et nous avons eu une excellente conférence cet été à Saint-Lunaire par un professeur de mathématiques de l'université d'Oxford, qui est un chrétien engagé, converti, authentique. Et il nous disait bien que l'opposition, ce n'est pas une opposition science-foi, mais c'est en fait une opposition entre deux philosophies. Et c'est pour ça que vous trouvez des grands scientifiques chrétiens et des grands scientifiques non-chrétiens. Ce qui prouve que la science ne s'oppose pas à la foi. Sinon, il n'y aurait plus de scientifiques chrétiens, il faut être clair. Et bon, je ne veux pas m'attarder là-dessus, mais si ça vous intéresse, je pourrais vous passer des documents. Donc il a montré qu'en fait l'opposition était entre le naturalisme et le théisme. C'était une autre chose. Donc, pour notre problème à nous, tout homme peut reconnaître aujourd'hui, peut se tourner vers le Dieu créateur, le grand ingénieur de l'univers. C'est le béaba, c'est la porte de la foi. Avant de s'approcher de Dieu, il faut croire qu'il existe. Et je crois que nous avons, dans la nature, le moyen de le reconnaître. Et je crois que pour l'évangélisation des enfants, c'est un premier point important. Leur montrer la nature, les merveilles de la nature, et leur montrer que derrière tout cela, il y a une grande intelligence qui a conçu ces choses. C'est un premier pas. Mais bien entendu, la conversion dont il est question dans notre passage est autre. Elle va plus loin. C'est la conversion vers le Seigneur, le Dieu rédempteur. On voit ça dans les effets qui ont été manifestés chez les Thessaloniciens. Parce que la conversion dont il est question ici, c'est un changement radical de direction qui implique le cœur. Paul dira aux Corinthiens, lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Et vous savez que le cœur, chez les sémites, c'était le siège de la volonté, des sentiments et de la raison. On se convertit donc lorsque les affections, les désirs, les pensées passent d'un objet, vous me pardonnez le mot objet, mais vous comprenez ce que je veux dire, passent d'un objet à un autre. En conséquence, la conversion vers le Seigneur, c'est une transformation opérée par le Saint-Esprit chez le croyant, s'il ne s'y oppose pas, par exemple en souhaitant garder un pied dans le monde, c'est le meilleur moyen de stopper toute progression spirituelle, Romains 12, 2. Donc cette transformation opérée par le Saint-Esprit implique un changement complet d'affection, de comportement. Nos pensées, nos sentiments, nos projets, tout est réaxé. Mais qui dit que l'on se tourne vers une chose nouvelle dit que, obligatoirement, on se détourne d'une autre. Si on fait demi-tour sur la route, c'est parce qu'on s'est rendu compte que la route sur laquelle on était mauvaise. Vous êtes d'accord? En clair, le changement d'attitude par rapport à notre présent implique obligatoirement un changement d'attitude par rapport à notre passé. On ne peut pas changer de voie dans le présent si on n'a pas changé d'attitude par rapport à notre passé. En d'autres termes, il n'y a pas de conversion authentique sans repentance. D'ailleurs, les deux sont souvent associés dans l'Écriture. Et on le sait que la conversion qui fait l'économie de la repentance est souvent sans lendemain, pour ne pas dire toujours. Donc dans les actes, on retrouve ça, hein. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. C'est Pierre, hein, qui dit ça. On trouve aussi chez l'apôtre Paul, en acte 26-20, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, etc., etc. Donc repentance et conversion sont souvent associées dans l'Écriture parce qu'elles font partie de la démarche de conversion, tout naturellement. Et dans vos versions, malheureusement, vous ne l'avez peut-être plus parce que les nouvelles traductions de la Bible ont enlevé le mot « repentance ». Et ça, c'est très regrettable. Je pense à la Bible du Semeur et à la nouvelle Bible Second, la NBS. Vous ne trouverez plus le mot « repentance ». Vous trouverez « changement d'attitude » ou « changement radical d'attitude ». Ce n'est pas pareil. Oui, la conversion implique un changement d'attitude, mais la repentance va quand même plus loin. Il y a quelque chose d'autre. On enlève une notion importante. Preuve en est que la repentance est fondamentale. Vous avez un autre passage dans les Actes qui nous dit que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. C'est clair. Plusieurs éléments caractérisent, selon l'Écriture, la vraie repentance. Il y a les éléments intérieurs et les éléments extérieurs. Comme nous l'avons dit, la vraie repentance est le fruit de l'action du Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit convaincra le monde en ce qui concerne la justice, le péché et le jugement. C'est Dieu qui produit en nous la repentance. Là encore, c'est à nous de ne pas nous y opposer. Premier élément qui la caractérise, c'est la tristesse profonde, le brisement intérieur. On se sent littéralement écrasé par ses fautes. Et on peut voir cela, par exemple, dans l'exemple de David. « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » On se rappelle également les larmes de la femme pécheresse au pied de Jésus dans l'évangile de Luc, ça nous est conté. « Et voici une femme pécheresse apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière au pied de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis elle les essuya avec ses cheveux, etc. » Vous connaissez. Il nous arrive, bien entendu, j'espère, de regretter les fautes que nous commettons par rapport aux conséquences humaines. Mais là, ça va beaucoup plus loin. Nous prenons conscience que par notre attitude, c'est Dieu que nous avons offensé. Et cela ne se mesure pas au nombre de larmes, bien sûr, mais au brisement intérieur opéré par le Saint-Esprit. La tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. 2 Corinthiens 7. Voilà pour les éléments intérieurs, la tristesse profonde, le brisement. On a le sentiment d'avoir offensé Dieu. Quant à l'extérieur, bien sûr, ça se traduit par des actes. Naturellement, la repentance s'accompagne d'une confession à notre Seigneur, comme nous venons de le lire pour David. « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, etc. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. » Confession donc au Seigneur, mais bien sûr aussi aux personnes que nous avons offensées. Si ton frère a quelque chose contre toi, va d'abord te réconcilier avec ton frère, vous connaissez ça. Donc il y a une volonté aussi de réparer sa faute, dans la mesure du possible, bien sûr. Et je voudrais juste vous citer un exemple, c'est une histoire vraie, c'est l'histoire d'un homme qui vient à la rencontre du chef d'un village avec 8 vaches. Et le chef du village lui dit « Mais qu'est-ce que tu viens faire là avec tes vaches ?» Et il lui dit « Mais elles sont à toi. » »« À moi ?»« Oui, elles sont à toi, parce que lorsque je gardais tes troupeaux un jour, j'en ai volé 4. Et ces 4 vaches sont devenues 8, alors aujourd'hui je te les ramène. » Et le chef dit « Mais qui est-ce qui t'a arrêté ?» Il dit « Aucun homme ne m'a arrêté, mais Jésus, lui, m'a arrêté. Je te rends tes vaches. » Et il disait tout ça avec un grand sourire, avec une paix réelle, et il rayonnait de joie. Et cet homme dit « Vous pouvez me mettre en prison, peu importe. Jésus m'a libéré, je suis un homme libre. » Alors le chef de village lui répondit « Écoute, si Dieu t'a libéré, je ne veux pas te mettre en prison. Retourne chez toi. » Et quelques jours plus tard, un homme qui avait assisté à la scène revit le chef, qui était songeur, qui était assez sombre. Et il lui dit « Mais écoute, il y a quelques jours, là, quelqu'un t'a apporté 8 vaches, tu devrais être heureux. » Et le chef lui dit « Pense donc, depuis que cet homme est venu, je ne dors plus. Parce que pour connaître la paix qu'il possède, ce n'est pas 8 vaches qu'il me faudrait rendre, mais 100. » Donc on voit ce que peut produire la repentance réelle, la conviction de péché. Et bien sûr, donc là, c'est un acte assez grave. Il avait volé des vaches, bon, c'est quelque chose d'important. Mais là où je trouve il y a le signe vraiment d'une repentance authentique, c'est quand ça se manifeste dans les petits détails. Et il y a une autre histoire vraie que j'ai lue il n'y a pas longtemps, que vous connaissez peut-être. C'est l'histoire d'une lettre qui est arrivée un jour à la présidence de la République française. Et c'était un enfant de 8 ans qu'il avait écrite cette lettre. Et voilà ce qui était écrit. Donc c'est un enfant de 8 ans, vous imaginez. « Monsieur le Président, il n'y a pas très longtemps, j'ai collé 2 timbres déjà utilisés sur une enveloppe. Je ne sais pas si je l'ai fait plus de 2 fois, mais en tout cas pas plus de 3 fois. Depuis, j'ai donné mon cœur à Jésus et je vous envoie 12 timbres pour être sûr. Je vous demande de me pardonner et je vous promets de ne plus recommencer. » Qui est-ce qui a convaincu ce petit bonhomme de 8 ans de faire ça, si ce n'est le Saint-Esprit? Fidélité dans les petits détails comme dans les grands. C'est le Seigneur qui permet de changer complètement d'attitude par rapport à notre passé, de tout nettoyer, de tout balayer, pour après pouvoir bâtir un présent qui soit digne de ce nom, pouvoir l'honorer. Évidemment, dans la suite de cela, il doit y avoir le désir de ne plus retomber Hein, on a tous en mémoire ces alcooliques qui, une fois convertis, arrêtent de boire, ces voleurs qui rendent le produit de leur larcin et puis qui changent complètement d'attitude. Vous connaissez ce proverbe, hein, celui qui avoue ses fautes et les délaisse obtient miséricorde. C'est encore un autre signe de repentance authentique. On a confessé ses fautes, on désire ne plus recommencer. On coupe les ponts, éventuellement, s'il le faut. Je sais qu'avant ma conversion, moi je faisais partie d'un club de pirates informatiques. Le sport national, c'était de pirater tout ce qui nous tombait sous la main, tous les logiciels. Donc en clair, c'était du vol, mais c'était du propre, hein, c'était du vol en col blanc. Mais je me souviens qu'après ma conversion, je ne pouvais même plus toucher les disquettes, tous les trucs que j'avais volés. J'avais l'impression de me salir, ne serait-ce rien qu'en les touchant. Donc j'ai tout bazardé, tout envoyé, et puis, y compris l'ordinateur, comme ça, c'était net. Mais je n'ai aucun mérite dans cette histoire. C'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui travaille les cœurs et qui nous pousse à cela. Bien entendu, ça ne se produit pas que quand on se convertit, mais dans la vie du chrétien, bien entendu, on retombe, malheureusement, mais cela produit en nous un effet qui est tellement fort, un dégoût tel qu'on fait tout pour ne plus recommencer. Mais il y a un combat à mener, c'est un combat qui est l'affaire de toute une vie. Et les paroles de Paul, je trouve, dans le chapitre 7 de Romains, correspondent exactement à cette expérience. Lorsque le Saint-Esprit travaille en nous, on a vraiment le désir de faire le bien et on prend conscience qu'il y a encore beaucoup de choses à changer en nous. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, de ma raison, et qui me rend captif de la loi du péché. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ? Et après, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est en Christ. Christ peut nous donner vraiment la volonté, la capacité de ne plus retomber, si on le veut vraiment. Mais le problème, c'est que le péché est bien séduisant et des fois, on a du mal à lâcher certaines choses. Je ne m'attarde pas plus là-dessus. On a aussi dans la Bible, je vous la cite juste, des exemples de repentance superficielle, par exemple Saül et Samuel, dans le deuxième livre de Samuel, hein, mais au chapitre 15, vous lirez vous-même. Donc la repentance, comme nous l'avons dit, est une démarche fondamentale dans l'étape de conversion au Seigneur, dans la conversion authentique, mais ce n'est pas tout. Il y a un autre point important. Prendre conscience de la gravité de ses actions passées, c'est bien, les confesser, les réparer, parfait. Mais dans la loi mosaïque, comme vous le savez, celui qui était coupable de fraude, de vol, devait restituer ce dont il s'était emparé, et vous savez qu'il devait lui ajouter un petit quelque chose. Combien ? Deuxième devinette. Ouais, j'ai entendu. 10 ? Dit quoi ? Il devait ajouter un cinquième. C'était le dédommagement. Hein. Mais cela n'effaçait pas la transgression aux yeux de Dieu, on le sait. Hein. Le coupable devait en plus apporter un sacrifice de culpabilité au sacrificateur. Il fallait la présentation d'une victime pour effacer la faute. Et aujourd'hui, par la nouvelle alliance, nous savons, nous l'avons dit au moment de la scène, c'est le sang de Jésus qui purifie le pécheur repentant. Car nous savons que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est le cœur de la loi. Et nous nous approprions ce pardon par la foi. La foi qui, pas n'importe quelle foi, c'est la foi qui a atteint le Christ rédempteur. La foi qui se repose sur lui, qui s'y enracine. Et vous savez que la foi vient de la parole de Dieu, et il faut donc avoir un contact sérieux avec la parole de Dieu pour prendre conscience de ces choses et se saisir par la foi du pardon que Dieu nous accorde, que le pardon que Dieu accorde au pécheur repentant qui a lancé son SOS à Dieu. La foi en Jésus-Christ est donc au centre de cette démarche de conversion. Repentance, foi, et ensuite donc conversion. Nous pouvons tourner notre vie complètement vers le Seigneur. Voilà les trois piliers de la démarche de conversion réelle opérée par le Saint-Esprit dans le cœur du croyant. Et on retrouve ces étapes dans notre passage, c'est ce qui est formidable. On voit au départ des dispositions bienveillantes, des Thessaloniciens à l'égard de Dieu et à l'égard de sa parole, qui sont manifestés par l'accès de Paul auprès d'eux. Hein, Paul nous dit qu'il a eu un accès auprès d'eux. On voit leur accueil joyeux de la parole, malgré les circonstances difficiles. Ensuite, Paul rend grâce à leur changement de vie, qui s'est traduit par l'abandon des idoles. Ils ont rompu par rapport à leur passé. C'était le fruit d'une repentance réelle, même si le mot repentance n'apparaît pas, on en voit les fruits ici. Enfin, on voit que les Thessaloniciens ont pris une nouvelle orientation dans leur vie. Ils veulent servir le Seigneur. On voit enfin leur changement d'affection, puisque leur perspective, maintenant, c'est le retour du Seigneur. Alors, c'est remarquable tout ça, mais vous me direz peut-être, au verset 4, on peut lire ici que Dieu les a choisis, c'est ce que nous dit la traduction du Semeur, où ici, dans la traduction seconde, il nous est dit que, frères bien-aimés de Dieu, vous avez été élus. Alors certains m'ont fait part de ces remarques. Ils m'ont dit, mais si ces gens-là ont été élus, ont été choisis, peut-être que ça leur donne un avantage sur le chemin du salut. Et ça, c'est une idée fausse, je crois qu'il faut ôter. Donc je vous ouvre une petite parenthèse là sur l'élection. On voit dans l'Écriture que Dieu choisit certains hommes de façon souveraine, certains lieux aussi. Dans le Nouveau Testament, vous savez que Dieu choisit les 12, hein, Jésus-Christ a choisi les 12. L'apôtre Paul aussi a été choisi. Les chrétiens, comme ceux de Thessalonique, là, ont été choisis. Et on peut se demander naturellement si ça ne va pas à l'encontre d'une certaine liberté de notre part, de notre libre arbitre. On sait que notre liberté est limitée, mais elle est réelle. Et la lecture des textes sur le sujet montre deux choses qui peuvent nous aider à comprendre cela. Comment l'élection de Dieu, qui est un choix souverain de Dieu, ne va pas du tout à l'encontre de la liberté. En aucun cas, dans tous ces textes, on est élu pour croire. L'élection n'a jamais en vue la foi, mais elle a en vue le service. En tant que peuple, Israël devait être un objet de bénédiction pour toutes les nations. Les 12 étaient élus pour porter du fruit, pour juger les tribus d'Israël. Paul a été élu pour porter le nom du Seigneur devant les rois, devant les nations païennes. Les chrétiens sont élus, entre autres, pour la sanctification. Donc nous ne sommes pas élus pour croire, nous sommes élus pour servir. Deuxième chose, Dieu évidemment choisit qui il veut, il est souverain, il est juste, donc on n'a pas de souci à se faire. Mais nous pouvons remarquer que l'élu a la liberté de ne pas accomplir sa mission. Vous vous rappelez tous de l'exemple de Jonas, qui avait été choisi pour aller porter la repentance aux Ninivites, et qui a dit, ben non, je pars en Espagne, il fera meilleur là-bas. Donc, bon, il y a aussi Judas, qui avait été choisi par le Christ, et qui n'a pas été jusqu'au bout. Ce qui perd l'incroyant, ce n'est pas de ne pas avoir été choisi, c'est de ne pas croire. Celui qui ne croira pas sera condamné. C'est ce que nous dit Marc 16. Je cite juste un verset. Dieu ne veut qu'aucun périsse, mais il veut que tous les hommes parviennent à la repentance. C'est 2 Pierre 3:9. Dieu n'a décrété pour personne la perdition, mais Dieu veut a le désir que tous parviennent à la repentance. Encore la repentance. Donc, si l'élu n'est pour rien dans son élection, il a quand même le devoir de l'affermir. C'est ce que dit Pierre dans son épître. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Et c'est ce qu'ont fait les chrétiens de Thessalonique, ce qui est formidable. On voit leur foi vivante, leur amour actif, leur espérance à toute épreuve. Vous remarquez, la foi, l'espérance et l'amour, les trois piliers de la vie chrétienne. Leur passé a été réglé par la foi en Christ. Dans le présent, c'est l'amour de Christ qui les fait avancer. Quant à leur futur, il a en vue l'espérance du retour du Christ. Le passé, le présent et le futur, tout a été orienté chez eux sur le Christ. C'est ça la conversion. C'est ça se tourner vers Dieu. Tous les aspects de notre vie sont centrés sur lui. Les Thessaloniciens se sont jetés dans les bras que Dieu leur tendait. Le Saint-Esprit les a convaincus de péché. Ils se sont repentis, ils ont délaissé leurs idoles, ils se sont tournés vers le Seigneur qu'ils ont servi, avec la certitude que leur travail ne serait pas vain dans le Seigneur. Ils ont été un modèle pour de nombreux chrétiens, nous l'avons vu, et je crois qu'ils sont aussi notre modèle. Est-ce que nous n'avons pas envie, nous, de leur ressembler, ici, dans notre assemblée, d'être nous aussi des modèles pour ceux qui nous entourent, pour rayonner la parole de Dieu autour de nous? Bien sûr, ceci est possible. Dieu souhaite accomplir cette œuvre en chacun d'entre nous, à nous de ne pas nous y opposer et de ne pas être des obstacles à ce que le Saint-Esprit veut faire dans nos cœurs. Que le Seigneur bénisse sa parole.